Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
Dudes, you guys are gonna go back in time.
Ladies and gentlemen.
10, 9.
Dr. M presents.
6, 5, 4, 3.
Classics two, time machine.
1, 0. All engine running.
On Radio Saint Afrique.
Bonsoir chers amis auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classics Time Machine, votre magazine mensuel sous forme de voyage radio-temporel, avec comme chaque fois votre humble serviteur et érudit de service, le Dr M, au micro et en direct de nos studios. J'espère que le retour des beaux jours fait monter en vous des envies phonographiques et radiophoniques, puisque nous allons être gâtés ce mois-ci, car côté musique, ce soir, il y a du bon, rien que du bon, avec des classiques de qualité. Et vous ne serez pas en reste sur le plan historique, puisque je suis allé vous dégoter des archives d'époque pour revivre ensemble la fabuleuse année 1976. Alors comme d'habitude, ouvrez vos oreilles et profitez bien de cette heure qui suit. Le temps pour moi de programmer mon GPS temporel sur la dite année. Classics Time Machine, ça commence tout de suite.
Vous êtes en 1976.
Et voilà le travail. 1976, une année particulièrement chaude dont certains se souviennent encore, avec son printemps et cet été caniculaire qui font encore référence sur le plan météorologique et alimentent toujours pas mal de discussions lors des repas de famille dominicaux. C'était l'année des Jeux Olympiques de Montréal où la jeune gymnaste roumaine Nadia Comăneci éblouit le monde entier en récoltant dans sa discipline 7 fois la note parfaite et inégalée de 10 sur 10, ce qui fit très, très plaisir au régime du charmant dictateur roumain Nicolae Ceaușescu. En 1976, le candidat démocrate américain Jimmy Carter fut élu président en battant son concurrent sortant Gerald Ford. Et c'était aussi la fin de la bande à Bader, surnom donné en France au groupe armé d'extrême gauche Rote Armée Fraction, avec le procès en RFA de ses membres et le suicide en prison de son égérie Ulrike Meinhof. Et côté musique, c'était le groupe britannique Brotherhood of Men qui remporta le concours de l'Eurovision à La Haye aux Pays-Bas avec leur titre Save Your Kisses For Me. Mais heureusement, pour remonter le niveau, ce fut aussi l'année de sortie de l'excellent album Let's Stick Together. Troisième album solo de Brian Ferry, chanteur du groupe Roxy Music. Ce fut un succès immédiat pour le beau et très intellectuel Brian Ferry qui sortit ce single en septembre 1976, portant le même nom que l'album. Le voici donc, pour se mettre dans le bain de cette période, cette torride, pardon, année 1976, Brian Ferry avec Let's Stick Together. On se retrouve juste après pour entamer le vif du sujet. Vous êtes à bord de la Classic Time Machine avec le Dr. M aux commandes. This is your classic rock radio show, so hang on tight, let's go!
The man is put us together.
Ça fait du bien pour se mettre sur le bon pied et attaquer cette émission, ça. Alors, pour notre première prochaine étape en archive, je vous ai concocté un petit montage, un micro-trottoir, une tranche de ce qu'était la vie de tous les jours en 1976, puisque ce sont ceux qui l'ont vécu et qui l'ont faite qui le racontent encore le mieux. Je sais que cette émission peut sembler souvent vous jouer la carte de la nostalgie et vous faire remémorer des temps et des époques plus joyeuses, du moins c'est comme ça qu'on se souvient du bon vieux temps, mais je me suis posé la question. Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Eh bien, pour vous laisser le soin de vous faire vous-même votre propre opinion, j'ai monté 3 extraits d'interviews ensemble sur 3 sujets de société, à savoir dans l'ordre l'alcool en France, la cigarette vue par les enfants de 9 ans et les femmes vues par les hommes de 1976. Attention, séquence malaise, c'est parti.
À la maison, je bois du café, mais sitôt sorti de la maison, le premier bistrot qu'il y a, je commence au blanc, quoi. Alors, en allant à mon travail, 7-8 bistrots. Alors, c'est du blanc, et pas des petits, des ballons. Et j'arrive à en boire 8-9 avant d'arriver à mon travail. Et après, je pars au rouge.
Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, si on veut.
Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin.
Vous savez, en France, on a tellement d'occasions de boire, que ce soit pour une naissance, pour un enterrement ou quoi que ce soit. Vous allez chez les gens faire du travail, bon, la première chose qu'on vous dit, vous voulez boire un coup.
Bon, ben, il y a messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, faut bon retour, hein, au revoir, messieurs.
Faut dire, j'ai beaucoup tout sauté, ma première cigarette. Je savais pas comment fumer, exactement. Oh, j'avais 5 ans.
Lors d'une réunion de famille, et ma tante a essayé de me faire fumer. Je devais avoir 7-8 ans.
Plusieurs d'entre vous m'ont dit tout à l'heure que chez eux, il n'y avait aucune interdiction. On vous laisse fumer si vous le voulez.
Oui, enfin,
raisonnablement. Et pour l'alcool,
mais il faut quand même...
comment ça se passe?
Mes parents, ils me laissent fumer, mais ils disent qu'il faut quand même se réserver. Non, ils n'ont pas à dire, bon, on me laisse fumer.
Mon père ne m'interdit pas spécialement. Il me dit qu'il faut se modérer. Il me permet une cigarette par dimanche, mais...
Non, et on vous interdit l'alcool?
Non.
Est-ce qu'il y a une différence?
Moi, le fait, c'est que le dimanche, on m'autorise toujours mon quart de verre de vin, quoi. Parce que je trouve que c'est plus naturel qu'une cigarette.
Bien, maintenant on est encore plus entre nous. Dans la voiture, il y avait une phrase qui revenait souvent, les femmes sont toutes des salopes. Est-ce que vous le pensez réellement?
Les femmes sont... Non, oui, je l'ai dit avec tout le monde, hein, bien sûr, dans la voiture. Mais c'est une phrase toute faite... Mais c'est pas, je le pense pas profondément parce que il y en a, c'est évident, hein. Mais c'est pas une généralité encore une fois.
Est-ce que tu respectes les femmes?
Oui, je les respecte. J'ai plutôt tendance à les respecter, plus qu'ici, toujours.
Est-ce que tu les siffles? Est-ce que tu les agresses? Est-ce que tu les dragues trop souvent? Est-ce que tu les embêtes?
Non, j'ai tendance à les regarder. Enfin, si c'est une agression que de regarder une femme.
Quand les femmes suivent une certaine botte, c'est-à-dire la mini-jupe, quand on a connu la mini-jupe, les corsages transparents, pas de soutien-gorge, je pense que ça, c'est un côté excitant qui pousse l'homme.
Tu m'as dit souvent qu'elles aimaient ça, puis en fond, elles aiment ça, elles aiment se faire violer.
Elles aiment se faire violer, j'ai pas dit qu'elles aimaient se faire violer.
Ah, si, tu l'as dit.
Elles provoquent souvent le viol. Ceci dit, je me mets aussi un peu à la place de son violeur. Le gars dans sa voiture, le soir, c'est une belle fille.
Donc elle le cherche.
Elle n'aime pas ça, mais c'est la nature. Qu'est-ce que tu veux? Une femme est une femme.
Ah là là, oui, il n'y a pas à dire, hein. Comme disait Coluche à la même époque, en France, on est quand même hachement balèze, et ça date pas d'hier, mais même s'il faut avouer que... Depuis, quand même, on a fait quelques petits progrès. Il y a encore des efforts à faire. Alors, on va repartir en musique pour poursuivre ce voyage radio-temporel en écoutant le prodige Stephen Hardaway Morris, plus connu sous son nom d'artiste de Stevie Wonder, né dans l'état du Michigan en 1950 et qui nous régala cette année 1976 avec un somptueux album Songs in the Key of Life, dont est extrait ce fabuleux titre I Wish, où il se remémore les bêtises et les joies des tendres années de son enfance, en regrettant de ne plus pouvoir les revivre, malgré la pauvreté de sa famille et les rares cadeaux de Noël que lui et ses frères et sœurs recevaient. Une bien jolie ode au C'était mieux avant, que je vous laisse le plaisir de redécouvrir ici sur Classics Time Machine, The Amazing Groovy Sound of the 70s, Let's Hear It for Stevie Wonder, I Wish. Thank you.
lundi à 15h, après être parvenu à pénétrer dans la salle des coffres, que la direction de la Société Générale a donné l'alerte. Une salle des coffres qu'il a fallu plusieurs heures pour atteindre, la porte ayant été soudée de l'intérieur. 316 coffres fracturés sur plusieurs milliers, des coffres situés dans 8 immenses placards blindés, 6 placards contenant des compartiments individuels, un placard contenant les espèces à la disposition de la banque, un placard contenant les recettes des grands magasins. C'est donc après avoir percé un tunnel de 8 mètres de long et 50 cm de diamètre depuis les égouts de la ville que le gang a atteint la salle des coffres.
Tout le long, en fait, c'est une galerie qui est propre. Une galerie propre.
Mais ça a demandé un travail énorme de faire tout ça.
Oh, pour moi, je suppose qu'il y a assez longtemps, hein, que ça a dû... Enfin, le travail a dû être... Moi, je passe au moins plus d'une semaine. Hein.
Nul ne pouvait pénétrer dans la banque aujourd'hui, excepté bien sûr le personnel et les enquêteurs placés sous la direction du commissaire Besson, qui nous explique comment l'alerte n'a pas été donnée plus tôt.
L'alarme n'a pas été donnée pour la bonne raison qu'il n'y a pas de système d'alarme. Les services techniques de la direction de la banque n'ont pas estimé instaurer un système d'alarme eu égard au blindage extrêmement épais et à la sécurité remarquable de leur salle des coffres. Le contraire est évidemment démontré puisqu'il est prouvé par un proverbe français qu'à l'impossible nul n'est tenu.
Le casse du siècle. C'est comme ça que la presse de 1976 surnomma le vol de plus de 50 millions de francs à l'époque. Un butin qui serait aujourd'hui équivalent en valeur à environ 30 millions d'euros, effectué par un jeune photographe des services municipaux de Nice en mal d'aventure, un dénommé Albert Spaggiari. C'est en lisant des romans noirs que lui vient l'inspiration pour réaliser son coup d'éclat. Creuser un tunnel souterrain depuis les égouts jusqu'à la salle des coffres de la Société Générale en plein centre-ville. Un travail titanesque entièrement réalisé à la main avec quelques complices qui leur prendra 3 mois à réaliser. Lorsqu'il pénètre finalement dans la salle des coffres le soir du vendredi 16 juillet 1976, ils prennent tout leur temps et campent tout le week-end dans la banque, forçant plus de 350 coffres renfermant des bijoux, des lingots d'or, de l'argent en espèces et même des photos de personnalités locales posant nues qu'ils accrochent au mur de la salle pour qu'elles soient vues par les policiers qui rentreraient constater le vol. Avant de repartir, ils inscrivent à la craie sur les murs les mots « ni armes, ni violence et sans haine ». La police, qui découvre le méfait le lundi matin, est perplexe. Cette façon de faire ne ressemble pas du tout aux méthodes du grand banditisme, et pour cause, Spaggiari et ses complices sont des amateurs. Et, hélas pour eux, en bon amateur, Spaggiari finit par commettre une erreur. En voyage aux États-Unis, il se vante de son exploit un peu trop fort, et le FBI prévient la police française qui l'arrête à son retour en France. Spaggiari avoue tout de suite et il est conduit dans le bureau du juge. Il en profite pour se jeter par la fenêtre du deuxième étage, faisant une chute de 7 mètres avant de tomber sur le capot d'une Renault 6 et saute à l'arrière d'une moto d'un complice qui l'attendait. Et ainsi, Spaggiari disparaît dans la nuit et ne sera jamais rattrapé par la justice. Avant de s'évanouir dans la nature, Spaggiari prend quand même le soin d'envoyer un mandat cash de 5000 francs au propriétaire de la Renault 6 en dédommagement des dégâts causés lors de sa chute. La grande classe quoi. Spaggiari passera sa vie en cavale entre l'Amérique du Sud et l'Italie, où il s'engage activement dans les mouvements sinistres de l'extrême droite, envoyant de temps en temps une petite photo de lui à la presse, tantôt déguisé en Père Noël, tantôt sirotant un verre de vin au soleil. Il mourra en Italie en 1989 d'un cancer à l'âge de 59 ans et sera enterré en France, dans son village de Laragne-Montéglin dans les Hautes-Alpes. Le butin du casse du siècle, lui, ne fut jamais retrouvé. Et pendant que Spaggiari réalisait son coup d'éclat, il y en avait un de l'autre côté de la Manche qui réussit une très bonne action. Je parle d'une action musicale, puisque c'est un artiste à la carrière assez modeste, le Britannique Peter Frampton, qui enregistra un album live, Peter Frampton Comes Alive, qui deviendra l'un des disques les plus vendus, et là j'ai perdu ma page, voilà, les plus vendus au monde. Ce fut en même temps le seul grand moment de triomphe de cet artiste qui, par la suite, ne put jamais égaler le niveau atteint avec cet album. Il fut peu après victime d'un terrible accident de la route dont il mit du temps à se remettre, et Peter Frampton retomba malheureusement petit à petit dans l'oubli. Mais pour l'heure donc, on va s'écouter son plus gros succès. Ladies and gentlemen, here is Peter Frampton, live, Show Me The Way.
Good evening. Patty Hearst has been taken into custody. The FBI says Patty Hearst was picked up today in San Francisco. The Hearst newspaper heiress has been missing for 19 months. First, she was kidnapped. Then she announced that she had joined ranks with her kidnappers, members of the Symbionese Liberation Army. She called herself Tanya. She was later indicted in connection with a San Francisco bank holdup and labeled a fugitive.
It was early this morning when Patricia Hearst arrived at the Alameda County Courthouse here in Oakland. Outfitted in a long blue dress, the convicted bank robber appeared healthier than she did when sentenced 3 days ago. 44 additional witnesses are also scheduled to testify, and sometime in the next couple of days, a grand jury indictment is expected to be issued against the Harrises, charging them with kidnapping, assault with a deadly weapon, and false imprisonment.
Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais en 1976, le monde fut passionné par le procès d'une jeune fille de milliardaire américain qui fut kidnappée par un groupe d'armées d'extrême gauche et qui, contre toute attente, participa activement avec eux à la lutte armée contre la police en menant plusieurs braquages de banque où elle se montra particulièrement féroce et déterminée. Son nom, Patricia Hearst. En février 1974, elle a 19 ans lorsqu'elle est enlevée par le groupe terroriste de Symbionese Liberation Army, la SLA, à San Francisco. Elle est retenue en otage par le groupe où elle subit les coups, la privation de nourriture et de sommeil. Ses ravisseurs exigent des rançons toujours plus élevées et le sort de la jeune fille semble compromis. Les médias et l'opinion se montrent très compatissants envers le sort de Patty Hearst lorsque soudain, le 15 avril 1974, 2 mois après son enlèvement, les caméras de surveillance d'une banque venant de se faire braquer montrent une jeune femme, béret noir sur la tête, avec un long manteau de cuir et une mitraillette à la main, qui hurle des ordres aux clients couchés à terre, qui les frappe, qui les menace, à bout portant et qui les humilie. Cette jeune femme, c'est Patty Hearst. Dans la foulée, la presse reçoit un message de revendication de la SLA, lu en personne par Patty Hearst. Les enquêteurs, la presse, le public n'en reviennent pas. Alors qu'on la croyait martyre, elle avait en fait renié son passé de petite fille riche et avait rejoint la lutte armée pour la libération du prolétariat. Patty Hearst fut alors la femme la plus recherchée des USA et un an plus tard, lors de l'assaut de la police contre la planque de la SLA, qui fut la plus longue fusillade des États-Unis, 7 heures d'affrontement, elle fut arrêtée et écrouée. Et le 20 mars 1976 donc, elle est condamnée pour sa participation à des actes terroristes et les nombreux braquages de banques qu'elle a menés au sein de la SLA. Elle plaide à son procès le lavage de cerveau et des experts la déclarent victime du syndrome de Stockholm, ce phénomène où des otages se prennent de sympathie pour leurs ravisseurs et coopèrent avec eux. Aidée par une batterie d'avocats talentueux et très bien payée par son milliardaire de père, et soutenue par sa famille et ses relations bien placées, elle n'écope que de 7 ans de prison mais pourra sortir après à peine 2 ans passés sous les barreaux. Révolutionnaire ou non, l'argent, c'est quand même bien pratique et Patty Hearst a repris par la suite sa vie de milliardaire comme si de rien n'était et continue de le faire aujourd'hui encore à 65 ans. Sa petite folie de jeunesse lui offrit cependant une notoriété dans la culture populaire et lui permit de jouer dans un bon nombre de navets au cinéma. Aujourd'hui, elle vit dans une banlieue cossue de San Francisco et participe régulièrement à des œuvres caritatives et des concours de dressage pour les petits chiens. Et je vous l'avais déjà dit en début d'émission, il faisait chaud en 1976 et il y eut une autre vague de chaleur cette année lorsque le groupe de funk, justement baptisé Heatwave, enregistra cet été-là leur plus grand tube, Boogie Nights. Écrite par le claviériste du groupe Rod Temperton, la notoriété de ce titre lui permit de se faire repérer par le baron de la musique soul et funk Quincy Jones et de participer activement à l'écriture de certains tubes de Michael Jackson et de George Benson. Pas mal quand même pour un petit groupe de la banlieue de Londres. Boogie Nights est devenu un des titres phares des nuits des côtes est et ouest des États-Unis lorsque le disco et le funk triomphèrent sous fond de cocaïne, de discothèques bondées, de fringues à paillettes et de l'essor du cinéma pornographique. Voici donc un monument du disco funk sur Classics Time Machine. Feel the heat, feel the burn, here is Heatwave, Boogie Nights. Oh.
dancing. Got to keep on dancing, dancing.
Et c'était le groupe new-yorkais Ramones, du alors tout jeune mouvement punk mené par la fratrie fictive de Joey, Didi et Johnny Ramone, qui firent pousser des crêtes et raser des têtes à la jeunesse américaine en sortant leur tube Blitzkrieg Bop de 1976. On aura l'occasion de les recroiser sur Classics Time Machine et je vous en dirai alors un peu plus sur ce groupe mythique Ramones.
Toutes les personnes devront être munies de certificat sanitaire.
L'armée italienne sont venues faire évacuer deux villages. Attention, zone infestée, et toute cette zone a été isolée par des clôtures. L'accident s'est produit le 20 juillet dans une usine chimique. Une réaction que l'on contrôle mal quand on en a bien contrôlé 1000. La température soudain monte et une cuve de 2000 litres explose, libérant un nuage de trichlorophénol. Aujourd'hui, deux semaines plus tard, les ouvriers qui fabriquaient dans cette usine des essences, du parfum, des cosmétiques, des désherbants, ont dû partir. Le village est vide, mort. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux. Précisément, c'est tout le problème de l'industrie chimique qui doit être revu. Maintenant, c'est trop tard et il faut vacciner à titre préventif, car on ne peut dire avec précision quels seront les effets à long terme de ce gaz dont la composition est voisine de celle des défoliants utilisés durant la guerre du Vietnam. Les autorités sanitaires sont inquiètes et on les comprend. En 15 jours, les feuilles des arbres ont roussi. Des animaux sont morts, on se demande même si les rivières avoisinantes ne sont pas polluées. En attendant de connaître réellement la concentration de gaz toxique inhalé par les hommes, on a donc fait évacuer la population.
Et chaque décennie en Europe apporte son lot de catastrophes industrielles. Pensez à Tchernobyl, le naufrage de l'Erika ou encore l'explosion de l'usine AZF à Toulouse et leur lot de bonnes résolutions plus ou moins bien tenues. Il en va de même en 76 avec l'explosion d'un réacteur chimique de l'usine Ikmessa dans la bourgade de Seveso dans le nord de l'Italie le 10 juillet. Construite en pleine zone résidentielle et agricole, l'usine Ikmessa transforme d'énormes quantités de produits chimiques nocifs. Il semblerait que jusqu'à ce jour, on ne se souciait peu de l'implantation des industries dangereuses, puisque lorsque la catastrophe arriva, un nuage toxique rempli de dioxines et de phénol, produits hautement cancérigènes, s'éleva dans tout le voisinage et retomba en poudre blanche sur toute la zone. Le vent dispersa les nuages à des dizaines de kilomètres et les retombées polluèrent des milliers d'hectares de terres arables et furent respirées par des dizaines de milliers de riverains. En quelques jours, environ 30 000 têtes de bétail meurent et la végétation jaunit. Les autorités cherchent à minimiser la gravité et les conséquences de la contamination et l'événement n'est presque pas relaté dans la presse. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque des centaines d'enfants et les bébés d'abord, puis les adultes voient leur corps et leur visage se couvrir de pustules et se boursoufler, que la presse s'empare de l'affaire. Les photos et les images de ces enfants, hommes et femmes, aux traits déformés, donnent un visage au danger de l'industrie chimique et des conséquences pour l'environnement et l'homme. Le gouvernement cherche alors en toute hâte à limiter les dégâts et devra investir des sommes colossales pour décontaminer les sols et les terres agricoles et protéger la population. Les travaux seront longs et l'on ne sera jamais en état de mesurer complètement l'impact réel de la catastrophe sur le plan sanitaire. Mais un autre scandale éclate aussitôt quant à la gestion des déchets toxiques cette fois. Des milliers de barils remplis de dioxines sont éliminés peu scrupuleusement et certains sont envoyés un peu partout en Europe pour y être sommairement stockés, en plein air, dans les garages, dans des hangars, le plus souvent en pleine ville et laissés à l'abandon. L'opinion est choquée et l'Union européenne prend alors des mesures concrètes en appliquant la fameuse directive Seveso qui limite les implantations d'usines en zone rurale ou résidentielle et fixe un cadre de procédure pour le stockage et l'élimination des déchets toxiques. Néanmoins, des centaines de sites comme Seveso existent aujourd'hui encore. La différence avec cette époque est qu'à présent, les riverains de ces sites en sont informés. Il n'y eut dans cette affaire aucun procès, aucune condamnation, aucun dédommagement pour la population. Vive l'industrie! À bas la justice environnementale, 1976, c'était aussi ça.
From
décembre 1976, pour marquer le coup de la sortie d'un des tout meilleurs albums des années 70, Rumours, le groupe anglo-américain Fleetwood Mac lança ce classique Go Your Own Way que l'on pouvait alors entendre sur toutes les bonnes radios. Il est donc logique qu'on l'entende ici aussi sur Extreme.
Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up.
Sometimes I go out and I smell it, I get headaches, it's so bad, you know? And they just like, they just never go away, you know? I got some bad ideas in my head, I just...
The idea had been growing in my brain for some time. True force. All the king's men cannot put it back together again.
You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
L'inévitable page cinéma de cette émission est là pour vous rappeler qu'en 1976, le film de l'année, c'était sans aucun doute le noir, très noir, Taxi Driver, du réalisateur Martin Scorsese en français, avec dans le rôle principal un époustouflant et jeune Robert De Niro et une très brillante actrice encore plus jeune, âgée de 12 ans, Jodie Foster. Si vous ne l'avez pas déjà vu, l'histoire se passe dans les bas quartiers de la ville de New York où un vétéran de la guerre du Vietnam, solitaire et insomniaque, essaye de gagner honnêtement sa vie en faisant chauffeur de taxi de nuit. Au fil de ses courses, il est témoin chaque soir de ce que la ville a de pire à offrir, la drogue, les vols, les agressions, les meurtres, dans une impunité quasi totale, faute de police efficace et de dirigeants politiques non corrompus. Écœuré par ce spectacle, il sombre dans une folie grandissante et se rêve en justicier de la nuit, allant s'armer jusqu'aux dents pour nettoyer la vermine qui souille les trottoirs de la ville. Chemin faisant dans son délire, il sait prendre une jeune prostituée mineure, Jodie Foster, qu'il se met en tête de sauver quitte à devoir affronter la pègre qu'il exploite sans scrupule. Un film violent, puissant et intime dans la tête d'un homme à bout et désespéré qui fut un tel choc à l'époque que certains cinémas refusèrent de le diffuser en raison notamment des scènes de sexe impliquant le personnage de la toute jeune Jodie Foster, bien qu'elle ait été doublée dans ces scènes par sa grande sœur majeure, Connie Foster. Un film assurément pas tout public et limite controversiel, mais si intelligent et tourné avec tant de génie par Scorsese et un duo De Niro-Foster tellement talentueux que le film a raflé presque toutes les récompenses du cinéma et même remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher votre plaisir si vous ne l'avez pas vu. Mon seul conseil est de ne pas vous laisser dissuader par les quelques scènes très violentes car le film en vaut vraiment la peine. Bon, et si vous êtes allergique à la violence, même au cinéma, ne partez pas, j'ai l'antidote absolu pour vous, un shoot d'amour en plein dans vos veines avec ce magnifique titre du groupe anglais génialissime Queen, avec son chanteur vedette et charismatique Freddie Mercury, qui nous a hélas quitté en 1991, victime du sida. Je vous passe ce titre sorti en 1976, qui reste peut-être mon préféré du groupe et qui fut, selon Freddie lui-même, sa chanson dont il était le plus satisfait. Un peu de rock baroque avec la diva du glam rock en personne. Voici Queen avec Somebody to Love. That's right, babe. Let there be love on Classics Time Machine.
Tears run down from my eyes.
Freddy, tu nous manques. Et comme il nous reste un petit peu de temps pour achever tranquillement cette émission, je vous propose un petit bonus. On va terminer notre voyage radio-temporel vers l'année 1976 en musique avec un titre qui sent bon les highways solitaires des USA, le popcorn, les cheeseburgers qu'on saisit au volant des drive-in. Je parle de New Kid in Town, un tube 100% made in America par le groupe Eagles. Un peu de country rock aux couleurs délavées, un peu comme le vieux cliché Polaroid sur lequel vous posiez, chevelu et fier devant votre Ford Mustang, un aigle tatoué sur l'épaule. Last stop for this night classics rock radio show, it's the Eagles, New Kid in Town.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, new kid in town.
music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend.
Et voilà, mesdames et messieurs, fin de cet épisode de Classics Time Machine, votre émission qui remonte le temps, écrite, montée et réalisée par The Infamous Dr. M, oui, oui, c'est bien moi, et produite par notre technicien indéboulonnable Clément, que même que s'il n'existait pas, eh ben qu'il faudrait l'inventer. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur notre site, où vous pouvez laisser vos remarques et vos suggestions, ce qui est toujours le bienvenu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous laisse repartir vers 2019 en vous remerciant de nous avoir écoutés. Et je vous donne bien sûr rendez-vous le mois prochain, probablement mercredi 26 juin à 20h pour le 15e numéro de Classics Time Machine. Déjà, merci d'avoir été là. À bientôt, au mois prochain.
The Classics Time Machine. Une émission proposée par Dr. M. A bientôt.
I'll be back.